Je voudrais d'abord souhaiter la bienvenue aux personnes qui n'ont pas l'habitude d'assister à nos conférences et qui ont été, par différents relais, contactées et invitées pour cette conférence. Je les en remercie. La Société d'Histoire des Juifs de Tunisie est une société savante qui existe depuis 1997 et qui s'est donnée pour vocation l'étude scientifique de l'histoire de la communauté juive de Tunisie depuis les temps les plus reculés jusqu'à la période contemporaine. Depuis 1997, nous avons fait un certain nombre de progrès puisque notre expertise a été reconnue par l'université, que nous sommes en relation avec les universités françaises, israéliennes et tunisiennes qui travaillent sur cette histoire, que nous les avons réunis à notre initiative, qu'il y a, je salue l'arrivée de Chantal Bordelayoun, et nous avons depuis organisé plusieurs colloques à Tunis d'abord, où j'ai eu l'honneur et le plaisir de rencontrer Chantal, et ensuite à Paris, à la Sorbonne, à trois reprises, et notamment notre dernier colloque sur l'histoire comparée des Juifs du Maghreb. Alors cette histoire est en cours d'écriture, parce qu'elle n'a jamais été appréhendée de façon globale et de façon comparatiste. Il y a eu, il y a quelques jours, un colloque à Ifrane, au Maroc, à Essaouira, sur les migrations comparées des Juifs d'Afrique du Nord, où je n'ai pas pu malheureusement assister, mais peut-être que Chantal Bordelayoun en dira un mot tout à l'heure, qui montre le nombre de chercheurs qui s'intéressent maintenant à ce sujet. Il y a des champs très importants pour les historiens, pour les sociologues à défricher. Nous sommes en train d'essayer de mettre au point, avec nos amis de l'Université de Tunis, un colloque qui se tiendrait à Tunis au mois de décembre sur la Seconde Guerre mondiale en Tunisie, au cours duquel une journée sera spécifiquement consacrée à la situation des Juifs en Tunisie durant la Seconde Guerre mondiale. Et l'exposition que certains d'entre vous ont pu voir ici même au mois de décembre 2009 sera présentée en Tunisie. Je serai moi-même à Tunis dans quelques jours pour donner une conférence et j'essaierai de poursuivre les contacts que nous avons amorcés qui pour l'instant sont très positifs et qui devraient permettre que pour la première fois en Tunisie sera abordé ce problème spécifique de la persécution des Juifs durant la Seconde Guerre mondiale. Depuis l'indépendance, pratiquement on n'en parlait plus, il y avait une amnésie sur ce qui s'était passé durant la Seconde Guerre mondiale. Maintenant, les historiens tunisiens ont mis ce sujet à l'ordre du jour. Il y a un étudiant qui prépare un travail sur les camps de travail créés par l'armée allemande en Tunisie et destinés aux Juifs. Et il y a un autre étudiant qui travaille sur les réactions de la population musulmane face aux mesures anti-juives en Tunisie. Donc vous voyez que les choses avancent lentement. Notre prochaine conférence aura lieu ici même le 17 mai. Monsieur Adrien Salmieri, inspecteur général honoraire d'éducation nationale, traitera du sujet suivant, entre passion et raison, à propos de quelques choix idéologiques des Juifs italiens de Tunisie. Mais, alors, Claire Rubenstein me fait remarquer qu'il y a maintenant sur Facebook un site ou un groupe Société d'Histoire des Juifs de Tunisie. Je suis peu familier avec ce genre de choses, mais apparemment, je crois que c'est positif puisqu'un certain nombre d'entre vous sont ici grâce à Facebook, donc vous pouvez continuer. Le secrétaire général a fait passer une feuille de présence qui nous permettra de vous tenir au courant de nos activités régulières. Je vais maintenant laisser la parole à Chantal Bordelayoun. Alors je précise qu'elle est professeure à l'Université de Toulouse de Mirail et directrice surtout au CNRS, qu'elle a à différentes reprises travaillé sur les Juifs d'Afrique du Nord et notamment sur leur intégration ou leur non-intégration dans la société française. C'est l'objet d'ailleurs de son dernier livre, publié avec Dominique Schlapper, qui est un livre remarquable, que je recommande vraiment, parce que ça permet de revisiter un certain nombre de questions généralement mal vues, mal traitées ou mal entendues. Je vais lui passer la parole pour traiter du sujet qu'elle a elle-même proposé, les Juifs originaires du Maghreb en France, des identités recomposées. Les Juifs originaires du Maghreb en France n'est peut-être pas tout à fait de l'histoire, mais finalement, vous allez voir qu'on ne peut pas, pour traiter ce sujet, faire l'impasse sur l'histoire. Merci. Chantal, vous avez la parole.
Bonjour. Merci à Claude Nataf et à toute l'équipe de la Société d'Histoire des Juifs de Tunisie de votre invitation. Nous avons, c'est vrai, noué des liens, nous avons même fait des voyages ensemble et je suis très heureuse de retrouver, je revois des têtes familières parmi vous. Je suis très contente d'avoir l'occasion de vous retrouver. Nous avions en effet initié ces premiers colloques, le tout premier colloque qui a eu lieu à Tunis, donc en juillet 98, et qui a donné beaucoup de fruits par la suite, et je crois qu'il est très exemplaire. La démarche de votre association est particulièrement exemplaire de ce qui est en train d'essayer de se faire avec le Maghreb aujourd'hui, non sans difficulté, dans un contexte parfois tendu, parfois difficile, donc c'est d'autant plus méritoire. Et c'est vrai que je reviens du Maroc, où là aussi on a essayé de construire des relations avec les chercheurs de part et d'autre de la Méditerranée. Alors bon, je ne vais pas vous parler de ça précisément, encore que, peut-être qu'il n'est pas, il n'est pas ouvert. Vous m'entendez bien ?
1, 2, 3. 1, 2, 3.
Voilà, là ça marche. Bien. Je vais mettre bien en face. Voilà. Donc je vais en fait vous parler peu d'histoire parce que je ne suis pas historienne. Et j'ai l'avantage et le désavantage d'avoir recours pour l'essentiel comme source d'information aux témoins, ce qui est un très grand avantage parce que bon, on a quand même quelque chose de très vivant, et un désavantage parce que vous êtes les témoins de l'histoire que je raconte, ou qui n'est pas l'histoire, qui est l'actualité que j'évoque, et évidemment vous allez plus ou moins vous reconnaître dans le portrait que je vais essayer de dresser devant vous. Et évidemment, comme je dis souvent à mes amis historiens, surtout quand ils sont antiquisants ou médiévistes, vous avez beaucoup de chance parce que vos témoins ne sont pas là pour contester ce que vous dites. Voilà. Alors, j'avais intitulé donc mon exposé autour des identités recomposées avec l'idée de montrer la pluralité, évidemment, de la manière dont les Juifs... aujourd'hui les Juifs originaires du Maghreb et leurs enfants et leurs petits-enfants. Maintenant, est-ce que l'appellation va durer longtemps? Voilà, l'origine du Maghreb commence à être ancienne. Comment ils s'identifient, comment ils se reconnaissent, en quoi cette histoire du Maghreb les concerne. Et évidemment, je vais dire une banalité pour commencer. Il n'y a pas d'identité donnée une bonne fois pour toutes. L'identité, je crois que tout le monde est d'accord maintenant pour le dire, et les chercheurs le disent quotidiennement. L'identité, d'ailleurs même le terme est gênant, se compose, se recompose au gré des événements historiques, mais aussi au gré de la biographie individuelle. C'est-à-dire que si vous vous penchez vous-même aujourd'hui sur ce que vous êtes, et si vous vous souvenez de la manière dont vous pensiez, dont vous vous représentiez votre appartenance au monde juif, par exemple, il y a quelques années, eh bien, je suis persuadée que ce n'était pas tout à fait la même chose. Et qu'il y a des périodes de la vie où on se rapproche de la judéité, il y a des périodes où on est moins proche parce qu'on est occupé à autre chose, etc. Donc ce sont ces mouvements que je vais essayer de décrire, mais évidemment d'une manière un peu schématique. Je dispose de combien de temps? À peu près 1 heure, voilà, c'est ce qui me semblait. De manière un peu schématique, en grosses étapes de ce que sont devenus les Juifs du Maghreb, je parle essentiellement de la France, après la décolonisation, donc après le départ du Maghreb, qui est globalement massif. Hein. Je ne parlerai pas des Juifs qui sont restés ou qui sont revenus. Ce sont des petits phénomènes, effectivement, qui méritent d'ailleurs d'être étudiés, mais je ne parlerai pas de cela. Alors, je vous parlerai aussi, Claude l'a évoqué, du livre, d'une partie des résultats où justement on trouve les Juifs du Maghreb, du livre que nous avons publié avec Dominique Schnapper et Freddy Raphaël, qui s'intitule « La condition juive en France ». Le sous-titre est aussi important que le tri-titre, peut-être plus, « La tentation de l'entre-soi ». Et donc qui est paru en 2009 au PUF. Une partie de mon propos reprendra des éléments de ce livre, une autre partie est plutôt puisera dans des enquêtes que j'ai conduites au fil de ma carrière sur le monde juif et ce qui m'autorise à avoir une vision justement sur toutes ces décennies depuis les années 60. Alors, de la décolonisation pour les Juifs du Maghreb, ça a engendré un exode massif, et c'est une migration. Toute migration conduit à se repenser, à repenser son identité, mais aussi à repenser la relation qu'on a aux autres. Parce qu'on migre, donc on va vers d'autres, une autre société, d'autres personnes, d'autres coreligionnaires. Et donc cette relation va être complètement bousculée, elle est à reconstruire. Il y a l'exode, la décolonisation produit une discontinuité historique, une rupture dans l'histoire, une discontinuité territoriale, merci beaucoup, territoriale également, et ça modifie, cette migration va modifier ce qui paraissait évident dans l'appartenance ancestrale. C'est une modification de l'évidence d'une appartenance. Les références sont plus tout à fait les mêmes, alors qu'on ne se posait pas la question autrefois de la société dans laquelle on vivait et de son identité. Eh bien, la migration provoque une interrogation sur soi. Alors, il est habituel de dire que les Juifs sont accoutumés à s'interroger sur eux-mêmes, il y a un très beau livre qui commence à dater des années 60, qui est le livre de Robert Misrahi, « La condition réflexive de l'homme juif », qui est effectivement, qui indique bien cela, comment les Juifs sont amenés tout au long de leur histoire à s'interroger sur eux-mêmes et sur la relation aux autres. C'est pas par choix, mais c'est simplement que les circonstances de leur et la précarité de leurs conditions les a souvent obligés à s'interroger sur le pourquoi et le comment être juif. Alors, donc voilà, la décolonisation bouleverse tout ça, et les juifs, elle a bouleversé les anciennes hiérarchies et tous les cadres dans lesquels s'élaborait cette relation à l'autre. Il y a eu des mouvements de population, pas seulement les juifs. Et donc la migration des Juifs d'Afrique du Nord s'inscrit dans un mouvement beaucoup plus général qu'il ne faut pas oublier. Il ne faut pas oublier évidemment les Français rapatriés, il ne faut pas oublier non plus que la décolonisation va provoquer aussi des migrations des musulmans eux-mêmes. Et donc tous ces mouvements ont à voir les uns avec les autres, même s'ils ont leurs spécificités. Il y a un mouvement de recomposition identitaire qui va s'opérer et qui va toucher l'ensemble de ces populations. Alors, le départ des Juifs du Maghreb, je n'y reviens pas parce que les historiens ont très bien décrit le phénomène, et on a eu beaucoup de choses, beaucoup de travaux sur ces sujets-là. C'est une migration quasi massive, je l'ai dit, et quasiment définitive. Il y a des retours sporadiques, mais très peu nombreux. L'exode n'a pas été exactement ce qu'on appelle une migration forcée. La spécificité de cet exode massif, qui est d'ailleurs, qui mériterait qu'on s'arrête sur les différences entre chaque pays du Maghreb, hein. Mais bon, ça sont des choses connues. Cet exode massif n'est pas exactement ce qu'on appelle une migration forcée, parce que les raisons qui poussent au départ ne sont pas des raisons absolument d'antisémitisme, comme souvent dans les exodes forcés en diaspora, et elles sont multiples. Il y a eu des mouvements très différents et des conditions de départ très différentes selon les cas, selon les régions d'origine, selon les familles, selon les classes sociales, selon qu'on était urbain ou rural. Donc tout cela va jouer sur la qualité de l'exode, et on ne peut pas dire qu'il s'agit de la même chose pour tout le monde. Première caractéristique. Mais surtout, ce qui est quand même frappant pour ce qui est de la France, hein, je précise bien que je parle de la France, c'est que dans les années 60, à partir de la fin des années 50 pour le Maroc et la Tunisie, et un petit peu pour l'Algérie déjà sporadiquement, puis ce début des années 60, les exodes d'Afrique du Nord, en raison de la prépondérance numérique des Juifs d'Algérie, qui viennent, eux, à 90 pour ce qu'ils choisissent, eux, ou choisissent ou pas choisissent, alors choisis avec des guillemets, et qui en tout cas ont un mouvement naturel vers la France, eh bien, l'étape, je vais distinguer ici une première étape de l'identité des Juifs d'Afrique du Nord, cette étape est marquée par la prépondérance du modèle algérien. C'est-à-dire que tous les Juifs du Maghreb qui vont migrer à cette époque sont entraînés, peu ou prou, dans le sillage majoritaire des Algériens. Et ils vont, qu'ils le veuillent ou non, être perçus comme des rapatriés, qu'ils soient français ou non, mais ils sont dans le tropisme de l'Algérie. On confond dans l'imaginaire de la France de l'époque. Déjà, on a du mal à distinguer, plein de témoignages là-dessus, les Juifs, les pieds noirs, et même parfois les Arabes, tout ça se mélange beaucoup dans la tête des gens. Je me souviens d'un propos que j'avais recueilli où la dame me disait « c'était, je ne sais pas, c'était des pieds noirs, juifs, arabes, je crois, enfin, tout se mélangeait, juifs, arabes, pieds noirs, enfin, bon, c'était la même catégorie. Tout ça était très confus. » Et puis, donc, on a cette première étape qui va durer en gros jusqu'à la fin des années 60, qui est une étape que j'avais qualifiée de l'étape de la pieds-noirdisation des Juifs d'Afrique du Nord. Les Juifs d'Afrique du Nord sont d'abord des pieds-noirs. Et ils ne refusent pas ce terme. D'ailleurs, je ne sais pas si c'est le terme qu'on emploie, mais en tout cas, ils ne refusent pas quand on les qualifie de rapatriés, etc., même s'ils ne sont pas, comme beaucoup de Juifs marocains, ils n'ont pas la nationalité française au moment où ils arrivent. Ce n'est pas grave. La francité, l'appartenance au monde des rapatriés, c'est quelque part l'appartenance au monde de la France. C'est intégrer ou réintégrer, parce que les Juifs d'Algérie, vous le savez, disaient « on rentre chez nous, on revient », ce qui est contre toute vérité historique, mais on rentre chez nous. Mais cette phrase qui fait sourire, il faut la prendre aussi dans tout ce qu'elle a de volontariste, vous savez, la nation, c'est c'est un plébiscite de tous les jours, hein, c'est Renan, c'est « je veux faire partie de la communauté nationale ». Et pour faire partie de la communauté nationale, je partage le sort de mes voisins français d'Afrique du Nord, les vrais pieds noirs, qui eux, du coup, se voient d'ailleurs confondus avec les juifs qui ne fréquentaient pas forcément beaucoup en Afrique du Nord. Donc, j'ai, dans une boutade, dit un jour, finalement, les juifs sont devenus pieds noirs et les pieds noirs sont devenus juifs à cette époque-là. C'est-à-dire qu'ils font l'expérience, par exemple, les pieds noirs, là aussi les enquêtes l'ont bien montré, les pieds noirs font l'expérience de la stigmatisation. Ils sont bruns, ils sont basanés, tout ça, ça se mélange, et ils vivent très mal. Il y en a un qui m'a dit un jour, mais j'ai dit à mon fils, regarde-toi, on dirait un arabe. Et les gens le percevaient comme tel, parce qu'ils étaient souvent déclassés socialement, ils occupaient les mêmes emplois que les immigrés. Ils se sont retrouvés, vous voyez, cette espèce de basculement de l'histoire. Alors, la commune destinée des juifs, des pieds noirs, et avec ces images des bateaux qui accostaient à Marseille en 62, des files d'attente dans les services sociaux, le sentiment d'exil et de déclassement social, pas pour tous, hein. Là aussi il y aurait des nuances, mais bon, fut le lot de nombre d'entre eux, et ils créèrent une proximité nouvelle avec les Français rapatriés. Et donc, il y a un troublant jeu de miroir qui s'est ainsi produit. Cette définition de soi, donc, comme pied noir, s'étendit dans tout le pays. Finalement, les Juifs étaient pieds noirs et les Juifs, d'ailleurs, ne récusaient pas le terme. Pendant longtemps, ils ont continué. Jusqu'à présent, il y a encore quelques personnes qui nous disent se reconnaître comme dans ce terme, pieds noirs. Et je crois qu'on ne peut le comprendre que comme un symbole d'appartenance à la communauté nationale, et pas forcément comme une espèce de désaveu par rapport à sa judéité, ou pas non plus comme une espèce d'adhésion enthousiaste à tout ce qu'on a, à la caricature du pied noir, telle qu'elle a été brossée aussi à la même époque. Dans cette donc approximation historique, le terme pied noir était employé et s'est progressivement effacé. Pourquoi les Juifs adhéraient tellement à cette idée finalement d'être des rapatriés? C'est que bon, pour beaucoup d'entre eux, notamment enfin, pour les Algériens en totalité, quasiment à l'exception des Juifs du Mzab, et pour beaucoup de juifs tunisiens qui avaient déjà la nationalité française, également quelques juifs marocains qui avaient aussi déjà acquis la nationalité française, ou souhaitaient l'acquérir, eh bien, c'était simplement un choix d'être là et d'accomplir sa vie et l'avenir de ses enfants, d'assurer l'avenir de ses enfants là. Et mais c'est surtout... Parce que si on regarde le passé, eh bien cet attachement à la France s'était déjà manifesté depuis longtemps, sous l'effet du décret Crémieux, sous l'effet pas seulement du décret Crémieux, mais d'une relation à la France qui était donc à la puissance coloniale, bien entendu, qui était présente en Afrique du Nord et qui était instrumentalisé souvent historiquement par les puissances coloniales, mais qui était très forte, qui a permis d'ailleurs, été une francisation très forte des populations, en particulier les populations urbaines, et cette appartenance aussi était le choix de la France était une entrée dans la modernité pour les Juifs. C'était la volonté de sortir d'une condition qu'il jugeait finalement dépassée. Alors, moi je me souviens, là c'est même des souvenirs personnels, mais ma grand-mère disait, oh, ça, ceux-là, ils sont arriérés. Il ne fallait pas être arriéré C'était un terme qu'on employait beaucoup, vous me le confirmez, je pense. Voilà. Mais ça voulait dire, bon, on rentrait, il fallait être moderne, et même on devait être à la pointe de la modernité. Voilà. Alors, ça, c'est adhésion très très forte à la France, adhésion très forte à la langue, à la culture. Évidemment, je ne reviens pas sur des choses qui ont déjà sûrement été évoquées 100 fois devant vous, le rôle des écoles, etc. Et donc, la première étape jusqu'à la fin des années 60 que j'ai décrite, c'est un processus le corollaire de cela, c'est un processus de démaghrébisation des Juifs d'Afrique du Nord. C'est-à-dire qu'ils vont perdre, vous le savez bien, ils vont un peu tourner le dos à une partie d'eux-mêmes, en reprenant une métaphore musulmane qui elle-même avait été reprise par Romain Gary, Nicole Serfati a repris dans un titre que je trouve très beau, qui est « Les Juifs d'Afrique du Nord avaient suspendu un temps leurs racines dans le ciel ». Et je trouve cette image tout à fait intéressante parce que les racines étaient là-haut, mais elles étaient là. Elles étaient là. Et elles demandaient certainement à réapparaître. Deuxième étape, ils vont retrouver progressivement mes juifs. Je crois que j'oublie une précision. Une précision très importante. Donc, à chaque étape correspond en gros une figure. J'ai essayé de l'illustrer par une figure. La figure de cette première étape, c'est le juif d'Algérie. C'est autour de lui que s'organise le destin des Juifs d'Afrique du Nord, il me semble. Ils sont entraînés dans ce sillage. Et la littérature, à ce moment-là, montre bien, effectivement, qu'on n'est pas dans l'époque où on se dit juif. La littérature des Juifs d'Afrique du Nord, on peut prendre deux exemples, on peut prendre... l'exemple du philosophe Jacques Derrida. On peut prendre l'exemple du journaliste écrivain Jean Daniel. Eh bien, des Algériens, on a des gens qui s'expriment en tant que Français, avant tout, et qui n'ont pas du tout nié leur judéité, mais qui l'ont mise, qui l'ont réservée pour l'espace privé, mais qui s'expriment de la sorte. Deuxième étape, les Juifs vont retrouver leurs racines suspendues dans le ciel par le biais de la séfaradité. C'est en tout cas l'hypothèse que je formule. Et la figure à ce moment-là, ce ne sont plus les Juifs d'Algérie, ce sont les Juifs du Maroc. Pourquoi ? Alors, deuxième étape, c'est l'étape donc de la séfardisation des Juifs d'Afrique du Nord. Elle va, en gros, de cette fin des années 60, début des années 70, à 1992. 1992, ça vous rappelle quelque chose? Voilà, 500e anniversaire de l'expulsion des Juifs d'Espagne. Et là, il y a vraiment un point d'orgue pour l'identité séfarade. Pendant cette période, le mouvement séfarade va se construire et s'organiser. Et dans ce mouvement, les acteurs majeurs de cette construction de l'identité séfarade, ce sont les Marocains. Pourquoi ? Parce qu'ils sont, vous le savez bien, discriminés en Israël. Il y a le mouvement à ce moment-là des Marocco-Sakines. Vous savez qu'on les appelait comme ça, les porteurs de couteaux. Et ils vont jouer un rôle majeur. Ils font entendre leur voix en Israël, avec la construction du mouvement des Panthères Noires. Vous savez tout ça. Et en même temps, dans un autre lieu d'implantation, pas en France, à Montréal, qui devient la capitale du séfardisme à cette époque-là. où les Juifs marocains, très nombreux au Canada, plus nombreux que là-bas que leurs autres coreligionnaires du Maghreb, il y a beaucoup moins d'Algériens et de Tunisiens au Canada que de Marocains, eh bien, là, ils trouvent une voie originale pour s'intégrer au Canada. Pourquoi ? Parce qu'au Canada, d'abord, vous le savez, c'est une société où l'ethnicité est officielle. On existe par son appartenance ethnique. Et au Canada, quand les Juifs du Maroc arrivent là, on leur dit, vous êtes, c'est quoi votre groupe ethnique ? Ils disent, Juifs. Juifs ? Ah bon, alors, vous allez, vos enfants, dans les écoles, avec vos coreligionnaires juifs. Les Juifs qui sont sur place sont des Ashkénazes, anglophones. Et nos séfarades, ils sont francophones. Et là, ils ont l'intelligence de dire, eh ben nous, ça ne nous va pas du tout. Ils ont compris ce qui se passait à Montréal, où toute la vie sociale est structurée selon, c'est-à-dire que les écoles, les hôpitaux, le système d'assistance sociale est confié aux communautés. Ils disent, non, on va créer notre communauté. On va créer notre communauté de juifs séfarades face aux Ashkénazes. Nous, on sera des séfarades francophones et il y aura des... Voilà. Et donc, il y a officiellement deux communautés juives au Québec qui sont reconnues comme telles avec leur propre tissu d'organisation, etc. Donc là, il y a une activité très forte des juifs séfarades à Montréal qui va rejaillir sur l'ensemble de la diaspora. Et la Fédération mondiale séfarade est créée en 1973, c'est-à-dire en plein dans ces années 70, au moment où, en France, eh bien, il y a ce qu'on a appelé le début de la revendication des identités. Les années 70, ce sont les années des identités où on parle beaucoup des Bretons, des Basques. Marianne Strass écrit son livre sur la diaspora, où il compare les Juifs, où il défend l'idée que les Juifs sont une minorité et non territoriale, comparée aux Basques, mais qui ont des revendications spécifiques sur le sol français. Plusieurs ouvrages, là aussi la littérature parle, et plusieurs ouvrages à cette époque attestent de cette évolution, de cette naissance de l'identité séfarade qui va estomper la précédente, c'est-à-dire cette identité de rapatriés qui s'avance derrière leur identité de français. On va être juif séfarade, on est juif séfarade, d'autant plus que, moins qu'au Canada, mais tout de même, en France, quand les séfarades arrivent, il y a, comme vous le savez, des communautés très affaiblies par la guerre, donc un peu exsangues, mais il y a les Ashkénazes. Et ces personnes qui sont là dans les communautés, vont arriver ces coreligionnaires, mais avec... Bon, il y a beaucoup d'aide qui s'effectue, mais en même temps, il y a quand même un regard un peu... ils sont étranges, ils sont un peu bruyants, ils font la fête. Bon, tous les stéréotypes, vous les connaissez comme moi. Donc, voilà. Et les Juifs séfarades, qui s'ignoraient comme séfarades, parce que là aussi, les enquêtes montrent que les Juifs d'Afrique du Nord n'employait guère ce terme en Afrique du Nord. Ils ne se définissaient pas tellement comme séfarades. Ils l'étaient sans le savoir. C'était des monsieur Jourdain de la séfaradité. Voilà. C'était l'air qu'ils respiraient, c'est tout. Mais bon. Et bien là, tout d'un coup, ils vont s'affirmer séfarades parce qu'il faut expliquer. Mais comment vous faites la prière ? Ah ben non, mais c'est pas du tout comme ça, etc. Donc bon, il faut expliquer les différences et puis surtout... Il y a aussi une espèce de fierté séfarade qui va progressivement s'affirmer face à un regard qui est un peu parfois condescendant, parfois négatif. Alors, les Juifs séfarades se sont revendiqués du coup très massivement comme tels, c'est incontestable. Et par exemple, dans l'enquête que nous avons faite avec Dominique Schnapper et Freddy, sur les 321 personnes que nous avons interrogées qui sont séfarades déclarées, eh bien, 43%, 138, nous disent, choisissent spontanément le terme séfarade pour se définir. C'est un terme qui est rentré vraiment dans le vocabulaire. C'est énorme. On dit. Alors, il y avait, en fait, voilà, il y avait, je vais vous redonner la liste exacte, il y a juifs. Voyons, que je retrouve la page parce que je vous donne tous les... Il y avait les juifs, il y avait israélites, français, séfarades ashkénazes, bien sûr. Et je retrouve ma page. Il y a Pied Noir, qui ne fait plus du tout recette. Mais vraiment plus. Voilà. Juifs, français, ashkénazes. Alors, en fait, c'est dans l'ordre décroissant des occurrences. Les gens pouvaient cocher des termes. Ils avaient le choix. Juifs arrivent en tête. Français, un peu moins, mais coché quand même beaucoup. Ashkénaze, troisième position. Français de confession israélite, quatrième position. Et ça, c'est la grande surprise de l'enquête. Oui. Oui. C'est typiquement le modèle. Mais oui, il est repris par quelques personnes qui souhaitent maintenant réaffirmer le modèle israélite face à la montée du communautarisme. Donc c'est un terme qui revient. Séfarade en cinquième position. Après, il y avait juif laïque, juif religieux, israélite et pied noir qui est vraiment en fin de liste. Et là, en réalité, le terme pied noir qui ne représente, il n'y a que 30 personnes qui l'ont choisi, ce qui est peu sur les 600 interrogés, et sur les 300 et quelques séfarades, sur ces personnes-là, en 93, dans une autre enquête, il y avait quand même 13% des personnes qui se reconnaissaient dans le terme pied noir. Donc là, il devient obsolète, ce qui est un peu normal parce que pour les générations suivantes, il n'a plus beaucoup de sens. Et en revanche, le terme séfarade, lui, a complètement explosé, alors que on aurait fait l'enquête dans les années 60, je suis à peu près sûre qu'il ne représentait pas grand-chose. Vous voyez les caprices de l'identité aussi. Voilà. Alors, j'en viens à la troisième étape, qui est celle qui nous intéresse de plus près. Oui.
Les personnalités que vous citeriez comme paradigme du modèle juif marocain, alors c'est qui ? Par rapport au premier modèle, Jean-Daniel,
Exact. J'ai fait une erreur en posant une question, je préfère qu'on laisse la
prochaine et après vous poserez vos questions. C'est vrai. Non, mais c'est un rappel très juste, parce qu'il y a quand même, effectivement, j'ai oublié de mentionner ça, il y a quand même, du point de vue de la littérature, le séfarade, c'est toute l'explosion. Il y a les travaux de Tapia, par exemple. Il y a Serge Wakenin au Canada. Je suis sur cet aspect de la littérature. Je suis en train de travailler dessus, donc je n'ai pas fini de vraiment d'explorer. Mais c'est vraiment une littérature de juifs séfarades qui se disent comme tels. Et d'ailleurs, toutes ces années 70... On a beaucoup de travaux qui le montrent très fortement. Troisième étape donc, celle que j'appelle l'étape du ressourcement. Donc la première, piédnoirdisation, deuxième, séfardisation, troisième, le ressourcement, avec une affirmation juive qui correspond à un moment où, en France, il y a une ethnicisation croissante de la vie sociale et des rapports sociaux. Et je pense que ce mouvement démarre dans les années 80 avec l'émergence sur la scène publique d'un duo, en quelque sorte, les Feuges et les Beurs, souvenez-vous. C'est l'affirmation juive, ce sont les années de l'affirmation juive, mais des jeunes, prises en main par les jeunes, ce sont les Feuges, qui sont donc des catégories de différenciation ethnique nouvelles et qui semblent aujourd'hui s'être bien installées dans les esprits. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tout le monde est persuadé qu'il y a des Juifs bien identifiés, qu'il y a des Arabes bien identifiés. Personne ne sait exactement où sont les frontières de ces groupes, mais ils existent dans l'imaginaire de tout le monde. C'est une espèce de cristallisation des catégories ethniques dans l'opinion. Comme l'ont montré donc les résultats de notre enquête, si on regarde du point de vue, qu'est-ce qui peut expliquer ça? Si on regarde du point de vue de l'évolution globale de la population originaire d'Afrique du Nord, issue de l'exode, c'est une population qui est parfaitement intégrée socialement, qui se distingue très très peu, ça c'est vraiment montré dans l'enquête, très peu des Ashkénazes, contrairement à une idée reçue, mais il n'y a pas de différence culturelle et sociale majeure entre Ashkénazes et Séfarades. Il y a simplement des choses qui sont liées au culte. Mais après, du point de vue de la vie quotidienne, il y a peu de différence. Et une affirmation juive globale, où le religieux et la référence à Israël, c'est-à-dire des deux pôles identitaires, s'affirment de plus en plus, sont de plus en plus présents. C'est donc autour de ces deux axes, la proximité de plus en plus revendiquée avec Israël, et avec une forme parfois de jusqu'au boutisme par rapport à Israël, et l'importance de la religion pour se définir, que s'organise la diversité des comportements juifs contemporains. D'un côté, une forme de plus en plus communautaire et plus religieuse et publique, affirmée comme telle publiquement. De l'autre, une forme plus individualisée, plus culturelle, plus symbolique et souvent n'ayant plus avec le judaïsme qu'une relation très ténue. Alors, bien sûr, l'enquête nous a montré que les Juifs originaires du Maghreb ont été largement présents et les artisans du renouveau communautaire juif en France. Mais il n'y a pas besoin d'une enquête pour le comprendre. Ils étaient très majoritaires dans les communautés, 70%. Donc il est mathématique qu'ils soient les artisans forcément du renouveau et de la vie communautaire. C'est vraiment... Alors, on dit souvent, oui, s'il y a du communautarisme, ce sont les séfarades qui sont à l'origine de ça. Non, c'est simplement qu'il y a une tendance lourde dans la société au communautarisme aujourd'hui. C'est un phénomène qui dépasse le monde juif. Les séfarades, c'est vrai, sont un peu plus nombreux à se proclamer juifs et à choisir le terme « juif » dans la liste qui leur a été proposée. Ils sont 60% à choisir ce terme « juif » contre 40% des Ashkénazes. Donc il y a bien une volonté d'affirmation juive très forte. Donc ce rôle des Juifs d'Afrique du Nord dans la revitalisation du judaïsme est confirmé ici jusqu'à présent, avec un refus très fort chez les plus jeunes de céder à une forme de présentation jugée trop timorée. C'est-à-dire les Juifs veulent une identité. Ce sont plutôt les jeunes qui disent haut et fort, on est juif, point barre. On n'a pas besoin de préciser Ashkenaz, Sépharad. On n'a pas besoin de préciser français, on est juif. Et parfois on est juif, c'est ce qu'on affirme avant. Et ça, c'est ce qui change par rapport aux parents qui, comme je vous l'ai dit dans la première étape, eux, ils s'affirmaient d'abord français. Donc là, il y a une petite... j'ai les chiffres, mais je ne veux pas vous assommer avec des chiffres. Je peux revenir dans le débat si nécessaire. En revanche, les anciens nés au Maghreb ont continué de cultiver ce que moi j'ai appelé dans un colloque l'année dernière auquel nous avons participé à la Sorbonne, eh bien un israélitisme maghrébin. J'ai proposé effectivement qu'on parle d'un véritable israélitisme maghrébin, pas seulement marocain, maghrébin, c'est pas un lapsus. Mais c'est intéressant parce que justement, on dit, bon, ce sont les Algériens, mais c'est plus large que cela. Et effectivement, on retrouve ça, comme vous l'avez dit, monsieur, tout à l'heure, chez la génération des plus anciens qui se disent français de confession israélite et qui continuent à vouloir vivre leur judaïsme dans l'espace privé avec une certaine discrétion et avec une volonté de ne pas s'afficher constamment dans l'espace public. L'intégration des Juifs d'Afrique du Nord s'est totalement accomplie. La distance culturelle entre Juifs et non-Juifs s'est estompée. Quasiment totalement, je veux dire, on distingue pas vraiment dans la vie quotidienne. Un plus grand métissage des manières de vivre favorise un véritable déplacement des frontières entre juifs et non-juifs, mais aussi entre juifs et eux-mêmes, entre juifs et juifs. C'est-à-dire que les Ashkénazes et les Séfarades, qu'on opposait facilement dans les années 60, ils ont déteint les uns sur les autres. Ils ont déteint. On ne peut pas les opposer. En plus, il y a les mariages dits mixtes, ashkénazes, séfarades. Et donc ça crée des mélanges, c'est des inventions, des remaniements culturels qu'il faut prendre en compte. Il y a aussi des mélanges peut-être plus étonnants, comme le succès absolument inattendu et exponentiel auprès des enfants de juifs marocains du mouvement hassidique Lubavitch-Ashkenaz. Étonnant. Le combat pour la mémoire de la Shoah, qui est repris très fortement par les jeunes d'origine maghrébine. Et de même, du point de vue du fait que ça a déteint, eh bien, la reprise par des Ashkénazes d'une forme de religiosité populaire venue du Maghreb qui séduit pour son côté festif, pour son côté émotionnel des Ashkénazes qui rencontrent, c'est comme ça qu'on peut expliquer d'ailleurs le succès de Lubavitch, c'est qu'il y a cette religiosité émotionnelle qui est très présente, on danse, etc. Et donc, dans certaines aires de la région parisienne, se déroulent désormais dans l'espace public des cérémonies qui sont un peu étranges d'ailleurs pour aller au but de Chaumont pour Shabbat. C'est intéressant, le 19e arrondissement par exemple, où la religiosité juive ultra-orthodoxe doit s'exprimer non plus dans l'enceinte familiale, mais à l'extérieur. Il faut montrer, il faut être présent dans l'espace public. Le taux de mariage mixte est impressionnant, et encore, je pense que les chiffres tous les chiffres. Les statistiques sont très difficiles dans le monde juif parce qu'on ne sait jamais exactement où se trouvent les juifs. Donc pour les sociologues et les démographes, une difficulté majeure pour cerner la population. Mais les chiffres sous-estiment, à mon avis, les conversions et les mariages mixtes, et l'éloignement de certains couples mixtes et de leurs enfants qui ne se reconnaissent plus ou que très peu dans le judaïsme et donc ne sont pas inclus dans les enquêtes. Cela, on ne les a pas. Selon une enquête d'Eric Cohen, qui avait été faite, réalisée pour le FSJU, je pense que c'est en 2000, j'ai peur de dire une bêtise, c'est un peu avant notre livre, donc c'est une enquête un peu 2008 ou 2007, voilà. 69% des interrogés ont un conjoint juif, 30% un conjoint non juif, 1% un conjoint converti. Dans notre propre enquête, 70% de la population, toutes origines confondues, ont fait l'expérience d'un mariage mixte dans la famille la plus proche, ce qui indique un taux de mixité familiale très fort qui mérite attention. Les séfarades, que l'on pourrait croire plus épargnés parce que, dit-on, plus religieux, dit-on, plus traditionnalistes, etc., plus épargnés par le phénomène, sont en fait légèrement plus nombreux à avoir fait cette expérience du mariage mixte dans la famille. Ils sont 73,5%, alors que la moyenne de nos résultats est à 70%. Les unions entre juifs d'origine géographique différente se sont multipliées entre d'autres formes de mariage mixte, entre Algériens, Marocains, Tunisiens, etc. Et aujourd'hui, 7% des enquêtés ne peuvent cocher la case ni séfarade ni ashkénaze. Que remplir quand on a un parent des deux ? Voilà. Voilà, il faut créer une nouvelle, il faut les appeler les HQSEF, hein, ils ont... Voilà. Donc tout ceci crée évidemment... alors cet âge du ressourcement correspond aussi dans les années 90 et 2000, et là je vais vous intéresser parce que ça rejoint aussi ce que vous êtes, vous, dans votre association. Ça correspond à l'explosion du phénomène associatif des originaires. Hein? C'est-à-dire... Ah, il n'est pas d'accord. Il n'est pas d'accord. Non, mais le terme originaire. Non, oui, mais... On va... Bon. On reviendra là-dessus. Dans les années 90 et 2000, retour très inattendu à la réactivation de l'appartenance géographique. Alors que, première étape, on est rapatrié, deuxième étape, on est séfarade, et en fait la référence territoriale, c'est l'Espagne, ce qui est quand même un paradoxe un peu, parce que bon, on a oublié une partie de l'histoire. Et puis, on revient quand même, là, maintenant, parce qu'on y est, là, dans cette étape-là, à l'appartenance au Maghreb, dans la vie associative, avec la création des associations, y compris, parce qu'elle a été plus lente à venir, d'une association des Juifs d'Algérie, qui a été la plus tardive, parce que effectivement, pour des raisons historiques, on peut deviner, et des initiatives assorties d'une production intellectuelle et artistique centrée sur le pays d'origine, le tourisme, le développement d'un tourisme là où c'est possible, et même, alors on sait qu'en Algérie ça a été plus difficile, mais il y a eu quand même quelques voyages, notamment au moment pour les pèlerinages, notamment le Rav de Tlemcen, voilà, le tourisme, les initiatives patrimoniales, les relations avec les pays d'origine qui commencent à se développer. Claude en a, y a fait allusion, mais les colloques qui ont été menés dans les pays d'origine sont effectivement voilà, sont marquants de ce point de vue. Les rituels qui semblent avoir résisté à l'érosion de l'intégration, par exemple le henné, la cérémonie du henné est un rituel qui a résisté à toutes les épreuves du temps. Et ça, je trouve que c'est extraordinaire. Ouais. Ouais, voilà. Et la mimouna. Mais la mimouna, elle sait beaucoup. La mimouna, elle est difficile à réaliser telle qu'elle. Elle est difficile, là, la mimouna. Alors, cette. Mais évidemment, il y a donc tout ce bel aspect de la culture, de la réappropriation de sa propre mémoire, de sa propre culture par les Juifs d'Afrique du Nord. Il y a aussi des choses qui sont peut-être un retour vers un petit peu plus archaïque, vers les superstitions, les pratiques un petit peu ésotériques, une religion plus populaire, qui tendent à revenir en se faufilant dans cette tendance forte au ressourcement. Mais cette réappropriation du passé maghrébin fut certainement plus naturelle pour les Juifs du Maroc et pour les Juifs de Tunisie. Pour une raison simple, c'est qu'il y a une continuité relative de la présence juive dans ces deux pays, relative. Mais quand même, je reviens du Maroc et du colloque des Saouira, le Maroc, c'est particulièrement vrai, et ça tient aussi beaucoup à un acteur. C'est extraordinaire, parfois un homme peut abattre des montagnes, c'est André Azoulay qui a maintenu de tout son poids une présence à la fois physique et une présence dans la mémoire et dans la construction de l'identité nationale marocaine. Ce qui n'est pas le cas forcément ni de la Tunisie, où le nationalisme a quand même beaucoup plus effacé la mémoire, et encore moins de l'Algérie. Voilà, la dispersion les Marocains sont très exemplaires de ce point de vue, parce que le lien avec le Maroc n'a jamais été complètement rompu. Il a toujours été entretenu souvent à l'échelle des familles. C'est que les familles étaient elles-mêmes dispersées sur plusieurs continents. Et là, j'ai observé il y a quelques années dans une grande enquête transnationale comment les familles s'organisaient pour célébrer certaines fêtes ou certains événements de la vie familiale ensemble, contre vents et marées. Avec une mobilisation pour que la famille revienne de Montréal, d'Israël, et quelquefois des retours se faisaient au Maroc même. Donc, et ça continue à se pratiquer. Et puis maintenant, il y a Internet, vous m'avez donné un élément tout encore plus fort, je ne savais pas que Facebook aussi s'en mêlait, donc ça nourrit mes sources. Internet qui permet de faire le voyage sans se déplacer. Et là, on a eu un colloque sur le tourisme où j'avais pu développer un travail sur comment les Juifs du Maroc, à travers leur site dafina.com, arrivent à vivre le voyage, le retour au Maroc sans y aller, parce que certains y vont et partagent les photos, les odeurs. Alors, c'est extraordinaire, parce que c'est les photos des sites, des lieux, ils apprennent l'histoire du pays qu'ils ne connaissaient pas et qu'ils apprennent aujourd'hui. Ils découvrent des sites qu'ils n'avaient jamais visités. Et les photos, ce sont tous ces sites avec la précision, une grande précision dans la description, dans l'histoire des sites, mais aussi... J'étais très frappée par la présence très forte de la nourriture dans les photos. les gâteaux, le thé à la menthe, etc. Voilà. Les Marocains aussi qui sont restés marocains, marocains de cœur, c'est-à-dire que par exemple, même s'ils n'ont plus forcément la nationalité marocaine, vont continuer à aller, par exemple, fêter la fête du trône à l'ambassade du Maroc régulièrement, à Montréal ou ailleurs, ou à Mexico. Alors, je vais certainement conclure je vais pas tarder à conclure, mais je pourrais en raconter comme ça longtemps, mais dans cette réappropriation, la religion devient, dans certains cas, beaucoup plus exigeante. On se réapproprie le passé, on se réapproprie les éléments qui font l'identité, et dans ces éléments, la religion devient centrale pour certains. Pas pour tout le monde, mais pour beaucoup. Ainsi, le nombre de pratiquants réguliers parmi les juifs n'a pas réellement augmenté beaucoup. On a 40% en moyenne de pratiquants déclarés. En revanche, là, l'évolution entre les générations est très frappante et montre une progression de la religion chez les plus jeunes. Progression de la religion et de la référence religieuse. Mais les séfarades ne sont pas les seuls artisans, ni les premiers même, de cette évolution. Ils sont d'ailleurs moins nombreux que les Ashkénazes à se déclarer plus nombreux que les Ashkénazes à s'avouer moins religieux que leurs parents. Au-delà de ces chiffres, qui tout seuls ne veulent pas dire grand-chose, il semble s'être installé parmi une frange de la population l'idée que la religion que pour être juif, il faut être plus religieux que les religieux, pour une partie de la population. Ainsi, nombre de personnes rencontrées se disent plus religieuses que leurs parents et se réapproprient des pratiques et rituels qui avaient été totalement délaissés par les aînés et exigent, et là on voit, alors dans les familles, pour l'anthropologie de la religion, c'est passionnant, parce qu'on voit les enfants revenir à la maison et exiger des parents du glat kasher, le respect de certaines fêtes qui avaient disparu, enfin, ou de jeûner par exemple, des jeunes qui sont revenus, etc. Et donc des pratiques qui reviennent par les jeunes. Mais ça vient aussi pourquoi ? Parce qu'il y a une progression spectaculaire des écoles juives, qui sont en grande majorité aujourd'hui, très grande majorité, dirigées par des mouvements orthodoxes ou ultra-orthodoxes, auxquels des parents déjudaïsés, des classes moyennes et supérieures, pas forcément des milieux les plus défavorisés, n'hésitent pas à confier leurs enfants parce qu'ils sont incapables de transmettre une identité juive. Donc, on confie les enfants à des écoles en disant, là au moins, voilà, plus évidemment les aspects, on dit souvent, il y a plus d'enfants dans les écoles juives parce qu'il y a plus d'antisémitisme et c'est pas réaction. Mais la raison n'est pas forcément là, parce que ce ne sont pas forcément dans les milieux et les quartiers où les enfants sont le plus exposés à l'antisémitisme que ça se produit. Vous avez des enfants de médecins, d'avocats, etc., qui sont dans des écoles comme ça. Et moi, j'ai enquêté là-dessus, c'est assez impressionnant. Et donc, les enfants apprennent des choses qu'ils ramènent à la maison par ce biais. Donc, on a ici une rupture de la tradition d'Afrique du Nord, de scolarisation dans les écoles françaises, ou dans les écoles de l'Alliance israélite, dont le projet n'était pas plus de religion orthodoxe pour les enfants, mais une ouverture sur le monde extérieur. Contrairement à l'équilibre voulu et à l'inscription dans une perspective universaliste de ces écoles d'hier, dans nombre des écoles juives d'aujourd'hui, on fait plutôt l'apprentissage de sa différence irréductible avec les autres, de l'inconfort de l'exil, de l'hostilité du monde extérieur, de la rigueur impérative de la loi religieuse et de la peur de sa transgression. Moi, j'ai vu des enfants revenir à la maison tétanisés en disant à un petit frère « Mais tu as mangé de la viande tout à l'heure, tu ne peux pas prendre une glace maintenant !» Bon, voilà. Et ça, c'est... Voilà. Et ces enseignements dispensés par des rabbins plus enclins à diffuser le Kodesh dans une langue qui est parfois assez approximative, je parle du français, mélange d'hébraïsme et de français parfois assez incorrect, qu'a formé à ouvrir les esprits. Dans les espaces communautaires, hier animés par des laïcs, comme vous le savez, c'est une tradition dans le judaïsme français, il y a des espaces communautaires, il y a une séparation du religieux et du politique, en quelque sorte. Les espaces étaient traditionnellement animés par des laïcs. Le religieux est également beaucoup plus présent, et la fusion dans les centres communautaires entre le religieux et le laïc est souvent beaucoup plus est avéré en fait. Certains jeunes plus enclins à mettre en avant leur judéité manifestent parfois très fortement leur malaise au sein de la société française et dire ne plus se sentir chez eux ici, ce qui est une rupture totale avec les générations passées. Toutefois, ces crispations identitaires que le sentiment d'insécurité des années 2000 n'a fait qu'accentuer avec la multiplication des actes antisémites, n'ont d'égal que l'explosion en une myriade de manières d'être l'appartenance contemporaine au monde juif. Ce n'est pas le moindre des paradoxes de notre époque que de manifester des identités plus dures, plus intégralistes d'un côté et simultanément d'en décliner des expressions à l'infini, l'individualisation des appartenances n'épargne pas le monde juif d'origine maghrébine. Tout en se réclamant du judaïsme, les manières et les expressions du judaïsme sont l'expression des mélanges et des anticonformismes au modèle communautaire qui se décline à l'infini. Je vous remercie.
Merci Chantal. Je crois que je suis tout à fait dans mon rôle de porte-parole de la salle en vous complimentant à la fois pour avoir tenu le temps qui vous est imparti, mais surtout pour nous avoir tenu en haleine pendant une heure. Et pour arriver justement à une inquiétude que nous sommes un certain nombre à ressentir. Je dois vous avouer que pendant votre exposé, je vous disais, elle décrit une société idyllique. C'est merveilleux, tout se passe bien. Alors que peut-être, comme beaucoup ici, j'ai une profonde inquiétude en raison de l'orthodoxie dérapante et de la scolarisation massive en école juive à laquelle nous assistons aujourd'hui. C'était le chiffre de 30 000 élèves en école juive. Il me semblait que c'était excessif. Mais apparemment, c'est 30 000 élèves.
Moi, je crois que c'est ça.
Ça fait effectivement, je crois qu'il était temps de faire cette conférence dans le cadre de la société d'histoire. Je rappelle quand même à Chantal que nous ne sommes pas une société d'originaire, même si 90% des membres sont des Juifs de Tunisie, mais nous faisons au contraire une loi d'unir dans un but de stricte recherche des Juifs de Tunisie, mais également des non-Juifs, d'ailleurs, ou des juifs d'ailleurs, qui s'intéressent de façon scientifique à l'histoire des juifs de Tunisie. Ça fait quand même à peu près une cinquantaine d'années que les juifs du Maghreb ont quitté le Maghreb. Alors je pense que c'est le moment de cette réflexion, parce qu'il y a encore des témoins de ce qui s'est commencé là-bas. Mais dans quelque temps, les chercheurs n'auront peut-être plus cette possibilité. Alors, il serait peut-être le moment de nous interroger sur ce que sont devenus les Juifs du Maghreb, ce qui est devenu leur propre histoire, leur propre identité. Mais c'est peut-être un certain pessimisme qui me fait dire ça aujourd'hui. Je ne veux que me souvenir des bons côtés de l'exposé de Chantal. Et je vais donner la parole à la salle. Donc si vous voulez poser votre question, donc monsieur d'abord.
Je vais présider. Allez-y.
Merci Président, je partage un petit peu votre inquiétude, votre pessimisme, en tout cas l'inquiétude. Et merci Madame pour la conclusion en effet, qui est porteuse de questions. Et une des questions que je voulais en tirer est la suivante. Quand on étudie l'histoire des Juifs d'Afrique du Nord, à des degrés divers, c'est plus le cas en Tunisie, au Maroc, moins en Algérie, on constate que beaucoup d'entre eux, pour les intellectuels, ils ont été des intermédiaires, des messagers entre la communauté musulmane et la communauté chrétienne, pour simplifier, les Noirs colons et les musulmans autochtones. Et pour certains, ils ont même combattu, je suis d'origine tunisienne, je suis parti de 90%, et pour certains, ils ont même combattu auprès de Joshua, par exemple, pour contribuer à l'indépendance, combattu de manière intellectuelle, hein, puisque c'était bien dans cet état d'esprit. Vu ce que vous dites, que je partage en conclusion, est-ce que vous pensez que les jeunes juifs originaires d'Afrique du Nord en France, qui par leur culture ont tous les atouts pour servir d'intermédiaire à nouveau et d'intégration peut-être de la communauté musulmane en France, sont bien placés pour le faire ou pas?
C'est une excellente question. Et c'est vraiment, je ne sais pas si ils auraient tout effectivement pour le faire. Je ne suis pas sûre que le contexte le permette. Il y a régulièrement des initiatives de rapprochement judéo-arabe, etc. Ça ne tient pas. C'est quelques malheureux individus qui se battent tout seuls et qui finissent par... J'ai assisté au moment de la guerre du Golfe à la naissance d'une association comme ça. Elle est morte à la fin de la guerre du Golfe. Et puis voilà, l'association n'a pas résisté. Parce que ce conflit, tant qu'il ne sera pas réglé, il nous pourrit la vie. Voilà. Alors, il y a ça d'une part. Il y a aussi le fait que à force de communautariser, c'est-à-dire de considérer qu'il y a des groupes... Vous savez, ça a commencé pendant la guerre du Golfe, avec une parole du président de la République de l'époque, François Mitterrand, qui à la fin de la guerre du Golfe a dit « Je remercie les communautés juives et arabes de s'être bien comportées. » On a mis... Je ne savais pas qu'il y avait des communautés... En France, la République, normalement, ne reconnaît plus les communautés depuis la Révolution française, mais bon. Et en même temps, c'était quelque part, mettre juif et arabe, je ne veux pas dire qu'ils aient... Oui, en opposition, et dans des histoires partagées et identiques. Ils n'ont pas les mêmes histoires, non, mais en même temps, leur propre parcours dans la société française... Il y a des... On parle d'un livre. Il y a un enquêté qui m'a dit « J'avais l'impression d'être redevenu un immigré, d'être considéré comme un immigré. » Or, il faisait partie de ces gens dont les parents étaient arrivés comme français, fiers de l'être. Et il avait été élevé comme ça. Et on lui dit « Ah, vous, les Juifs et les Arabes, soyez calmes. Surtout, faites pas trop de bruit, là. Bon. » Voilà, il y a vraiment... Cette communautarisation est un désastre pour ce que vous dites. Donc naturellement, Moi, j'ai vu vous savez, les relations judéo-arabes, par exemple, dans les premières années après la décolonisation sur le territoire, elles ont continué. Regardez, interrogez les médecins juifs d'origine maghrébine avaient une clientèle immigrée très très forte parce qu'ils parlaient arabe. Et ils ont aidé souvent des gens à s'intégrer, etc. Mais aujourd'hui, je ne sais pas, ça continue un peu parce que là, il y a une différence entre la vie publique et politique et puis la vie quotidienne. Dans le quotidien, mais il y a des choses qui sont un peu froissées parce qu'on les a cristallisées.
Claude, pour comme ça. Claude, oui.
Très bon, je vais parler du passé avec les trois premières étapes, rapidement, de l'organisation de la population. Vous êtes parlé du passé et du présent. Comment voyez l'avenir de nos communautés en tant que des événements?
Ça, par contre, je n'ai
pas
la boule de cristal, mais non, c'est difficile à. Bon, je crois qu'il y a, non, ce qu'on peut, on peut quand même se dire que il y a certainement, il y a des mouvements de balanciers, il y a certainement, même si j'ai annoncé les chiffres concernant les mariages mixtes, etc., il y a une dilution hein, un petit peu des communautés. En même temps, face à ça, la peur de l'assimilation est très forte. Elle a toujours été très forte dans l'histoire, et là. Et donc, il y a des résistances. Et les crispations que j'évoquais sont parfois aussi un petit peu liées à cette peur de la dilution. Donc, je pense que les communautés juives de la diaspora, dans des pays comme la France, qui sont des pays, il faut le rappeler quand même, c'est pas une vallée de larmes, la France, hein, actuellement. Il y a eu, certes, des manifestations d'antisémitisme dans les années 2000, mais enfin, bon, tout ça, c'est sous le contrôle d'un État qui protège ces juifs, je crois que l'avenir en diaspora dans des sociétés démocratiques n'est pas menacé. Il y a une liberté d'association, il y a une liberté de réunion, il y a une liberté de circulation. C'est l'essentiel.
Il peut être menacé par un communautarisme excessif.
Alors voilà. Voilà.
Alors monsieur.
Félicitations pour vos exposés.
Merci, monsieur.
Je comprends beaucoup de choses. Par contre, je ne sais pas si vous avez bien entendu ou bien écouté, mais je n'ai pas senti qu'à un moment donné, vous faisiez le lien entre ces juifs qui venaient d'Afrique du Nord et se retrouvant en France, se retrouvant devenant plus juifs par leur attachement au sionisme. Et là,
c'est vrai, j'en ai pas du tout parlé.
Vous n'avez pas parlé, j'ai trouvé quand même.
Vous avez parfaitement raison de le rappeler.
Notamment les juifs, ce qu'on appelle les juifs du Kippour.
Oui.
Dont on sait.
Totalement.
En vivant là-bas, on ne savait absolument pas qu'ils étaient juifs. Mais une fois ici, effectivement, ils sont redevenus juifs par le ciel.
Absolument.
Deuxième question, est-ce que vous ne pensez pas que ce que l'on fait, un travail, effectivement, de voir, effectivement, le lien entre le Maghreb et la France, les juifs et les musulmans, pourraient servir un jour, j'espère, Inch'Allah,
ouais,
à la légitimation d'Israël dans les pays arabes.
Et ce serait souhaitable. Ce serait souhaitable, moi je ne sais pas si ça va, mais je pense que le travail, moi je suis... Je suis vraiment une militante de ça. C'est-à-dire, je pense que le travail intellectuel qui peut être fait portera ses fruits. C'est-à-dire que le travail qui met ensemble, qui réunit contre vents et marées, et Claude est bien placé pour le savoir, des chercheurs des deux côtés de la Méditerranée, ça c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est-à-dire, on a eu à Essaouira, on avait des chercheurs israéliens en nombre important et présent aux côtés de chercheurs marocains, algériens, tunisiens, et tous ces gens ont parlé. C'était pas toujours. Il y a eu des moments difficiles. Il y a eu des moments difficiles. Mais ils étaient ensemble. Et alors le seul problème, c'est qu'il faut arriver à faire comprendre, et ça, même chez les chercheurs, c'est pas acquis, qu'il n'y a pas une histoire. qui appartient aux juifs, une histoire qui appartient aux musulmans, qui est une histoire commune à construire, qui est une histoire partagée. Et, tant qu'on, et que, en fait, les chercheurs, ils ne sont pas juifs, musulmans, ils sont chercheurs de l'islam, sur, ils travaillent sur l'islam, ils travaillent sur le Maghreb, mais qu'ils soient juifs, musulmans, vert, jaune ou bleu, ça n'a pas d'importance. Il y a une universalité de la science.
Les juifs marocains qui ont introduit Israël en Maroc,
tout à fait.
Ce sont les juifs marocains qui ont introduit Israël bien, bien longtemps.
Ouais. Il y a eu quelqu'un que, de ce monsieur.
Il y a également, il y a deux points que vous n'avez pas abordés. D'abord, la répartition géographique est différente entre ce que je connais en tout cas, les juifs tunisiens, par exemple, les juifs
Tout à fait.
Sur la Méditerranée, alors les juifs algériens sont répartis relativement dans le
très plus dispersés.
En particulier liés au fait, aux parties d'entre eux, à l'institut fonctionnaire,
oui.
Ou d'être en
Israël. Tout à fait.
Et là, il y a vraiment une différence assez importante, et ça s'est vu, parce que l'image que renvoie quand même, en fait, le général, que ce soit les livres, les films, les trucs, tout ça, c'est celle du juif thune, juif thune, même pas le thune, mais en milieu thune, de parisien, ou en tout cas de pour lever entre guillemets cette image qui est un peu manquante.
Oui, c'est tout à fait vrai, c'est un complément important, c'est plus une remarque qu'une question en soi, et je suis d'accord, effectivement, il y a ces infinies différenciations internes qui comptent beaucoup, avec quand même, alors c'est vrai que Paris, il y a un tropisme parisien, c'est-à-dire que Paris est représentatif du judaïsme français en général, hein, parce qu'on a tous les cas de figure, et c'est la majorité de la population, et les grandes métropoles comme Toulouse, qui est très représentative de la représentation globale.
Est-ce que vous ne pensez pas que le terme juif du Maghreb est vraiment un terme complètement neuf par rapport à toute l'évolution et aux circonstances historiques, dans la mesure où justement il existait une histoire qui se faisait sur les juifs de Tunisie, sur ceux du Maroc, et pas du tout sur les juifs d'Algérie, très peu. Et un des livres qui semble avoir fait bouger, enfin il y en a plusieurs, mais des recherches de Benjamin Spora, des recherches sur les juifs d'Algérie, font que tout d'un coup, et comme peu à peu, on arrive à l'émergence de l'idée du juif du Maghreb. Contrairement, peut-être, vous avez souligné que chacun maintenant va dans sa direction, mais moi j'ai l'impression que c'est le mouvement inverse qui apparaît et que des histoires nationales, juives nationales, on va maintenant vers l'histoire des juifs du Maghreb avec des différenciations, certainement, mais avec ces rapprochements qui sont neufs.
Mais je crois qu'on a les deux mouvements. On a les deux mouvements parce qu'en fait, c'est absolument, on essaie de le faire parce que d'abord, le comparatisme en histoire, en sciences sociales, c'est une question, c'est une méthode incontournable. Il faut le pratiquer intelligemment, mais il faut le pratiquer. Ensuite, parce qu'il y a toujours un mouvement du particulier vers le général. Et là, en l'occurrence, c'est vrai qu'on a, je crois qu'on ne peut pas faire une bonne histoire si on ne s'intéresse pas à des situations locales très précises, sans monographie par exemple. Les monographies sont un moment indispensable. Voilà, il en faut, et c'est indispensable. Et à côté de ça, il faut une réflexion globale. Moi, je vous ai proposé une réflexion globale sur le Maghreb, parce que je pense que ces histoires sont liées. Et je pense, je vous ai même proposé d'entrer, de lier ces histoires à celles des pieds noirs, enfin des Français rapatriés, et aussi des migrations musulmanes. Donc vous voyez, on peut à un moment donné isoler un morceau de l'histoire, une situation, une localité, mais il y a un moment où il faut élargir complètement, sinon on ne fait pas du bon travail.
D'autres questions, madame ?
J'ai bien compris. À un moment, vous avez dit qu'aujourd'hui, la population juive est parfaitement intégrée. Et vous avez fini sur l'explosion d'un certain communautarisme. personnellement. Comme vous savez que le mot intégration, qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce qu'il y a de faire derrière, et moi c'est ça qui, je pense, ce est en cause, c'est l'intégration effectivement des Juifs dans la population française.
Alors c'est, vous avez raison, il y a un paradoxe entre un degré d'intégration socio-économique et culturelle, je ne dis pas parfait, ça n'a jamais parfait les processus d'intégration. Enfin, globalement, tout le montre, tous les indicateurs le montrent. Les Juifs sont intégrés, ils ont réussi au bout d'une génération à revenir, à rétablir un processus tout à fait normal quand ce n'était pas la première génération. Donc ça, c'est indéniable. C'est l'intégration sociale et économique et culturelle, parce qu'ils bon, ils partagent la langue, ils vont dans le monde. Mais voilà, ils sont en train de se désintégrer. Exactement. C'est énorme. Alors ce qui se passe, c'est qu'il y a un processus effectivement de désintégration, c'est-à-dire de l'apprentissage du français, ben oui, d'accord, mais il y a des choses plus importantes, etc. Il y a des choses comme ça. Oui ?
Dans le même sens que cette question, comment expliquer la transformation des mariages avec justement ce phénomène de reconnaissance religieuse et du communautarisme ?
C'est une réaction des uns par rapport aux autres, c'est-à-dire cette crispation. Ça ne touche pas les mêmes populations, évidemment, mais vous avez dans les mêmes familles, c'est ça qui est absolument extraordinaire, vous avez dans les mêmes familles des mariages mixtes, des gens qui vivent sur un mode très light, si j'ose dire, leur judéité, parce qu'ils ont fait des mariages mixtes, que bon, ils continuent à faire quelques fêtes, ou alors ils vont le Shabbat parce que dans la famille on se réunit, mais ils ne font pas grand-chose. Le frère et la sœur, par exemple, vous avez le frère qui devient Lubavitch. Vous avez même des conflits à l'intérieur des familles aujourd'hui à cause de ça. Parce qu'il y a un activisme très fort des mouvements ultra-orthodoxes. Ils sont très présents et ils sont pas seulement présents aux marges de la communauté, comme le consistoire avait réussi pendant des années à maintenir ces groupes. Maintenant, ils sont dedans.
Dans le consistoire. C'est le consistoire qui est marginalisé.
Exactement, exactement.
Ah, écoutez, le 27 avril, allez sur l'esplanade du Champ de Mars, au bas de la Tour Eiffel, vous avez la célébration publique de l'Akba Omer, organisée par le consistoire et les Lubavitch.
Oui.
Vous allez avoir ce mouvement au pied de la Tour Eiffel, cette célébration publique du culte. C'est des choses qui...
Regardez sur Internet, je l'ai vu juste avant de venir tout à l'heure, le congrès annuel des Lubavitch, qui l'introduit, le président du consistoire.
Ben voyons.
Oui.
C'est un phénomène général.
Oui.
Je
vous remercie pour... Très parlant, et évidemment ces trois moments que vous citez. Mais est-ce qu'on peut, par ailleurs, ces trois moments sont trois moments historiques, mais est-ce qu'on peut donner une tendance? Parce que, en fait, ces trois moments se retrouvent en synchronie aujourd'hui, peut-être affectés par la génération, mais effectivement, comme on l'a remarqué à plusieurs
reprises,
il y a en même temps une réorigination, et d'autre côté, la tendance vers l'intégration de l'enfance, qu'il y a une dilution de la judaïcité dans les mariages. Donc c'est une tendance envers contradictoire. Mais est-ce qu'on a des chiffres avec des enquêtes scientifiques?
Écoutez, oui, on a des chiffres là qui sont, comme je vous ai dit, qui ne sont pas absolus, parce que les chiffres, on n'a pas d'échantillons parfaitement représentatifs, mais on a effectivement des chiffres et des données qui permettent de voir qu'il y a, par exemple, sur les écoles juives, voilà une tendance lourde. Je faudrait que je retrouve le chiffre, mais.
Dans ces enquêtes qui sont normalement interdites par la Commission.
Oui.
Comment vous avez réagi, puisque aujourd'hui, par le biais des
variations. Ah voilà, ça c'est, une question de méthode. Voilà. Alors, nous, on a. C'est déclaratif, tout à fait. Pour un, moi, je suis sociologue, hein, je ne suis pas dans la communauté, ni rabbin, ni rabbine. Donc, pour moi, est juif qui se définit comme tel. La personne qui accepte, monsieur, madame, nous faisons une enquête sur le monde juif, sur l'identité, est-ce que vous acceptez de répondre? Si la personne accepte, moi, je ne veux pas savoir plus. Et alors, évidemment, un jour, on m'a dit, mais avec votre méthode, vous auriez interviewé Monseigneur Lustiger, et à son âme. Eh bien oui. Eh bien oui.
Et inversement, on échappe à l'enquête tous les gens qui sortent de la communauté, alors que ça peut être intéressant.
Alors, tous les gens, pas qui sortent, tous les gens qui ne se reconnaissent pas dans l'identité juive. Mais je peux vous dire que, et moi j'ai beaucoup veillé à ça, parce qu'on a construit un échantillon dit boule de neige, c'est-à-dire par réseau, puisqu'il n'y a pas de fichier juif. Dieu merci. Voilà. Donc on fait comme ça. On a une connaissance suffisante. On est sur des petits nombres. Donc à Strasbourg, Frédéric Raphaël, il connaît sa communauté comme sa poche. Moi, à Toulouse, c'est pareil. Je connais les gens. Et je connais les juifs qui sont très éloignés, c'est-à-dire des juifs qui sont juifs, qu'ils veulent bien dire qu'ils sont juifs, mais qui sont mais complètement, qui n'ont aucun lien ni avec la communauté, qui ne se reconnaissent pas dans Israël du tout, qui affirment qu'ils n'ont pas de lien avec Israël, etc. Et cela, on a pu les avoir, on l'a dans notre enquête, ce qui fait que l'enquête est très intéressante parce qu'elle montre un panel de gens. Alors la tendance lourde au sein des communautés, ça dépend ce qu'on appelle, ce qu'on entend par communauté aussi. Voilà. Nous, le terme, on ne l'emploie que dans le sens des communautés organisées, c'est-à-dire les organisations juives, et après on parlera plutôt de population. Population juive, tous les gens qui se reconnaissent comme tels, et que souvent on nous a désignés comme tels, puisque par boule de neige, on demandait aux personnes interrogées, est-ce que vous pouvez m'indiquer quelqu'un qui pourrait être intéressé à répondre à notre enquête? Bon, alors, voilà, et après, on a construit ça pas à pas, de manière à dire, oulala, là, on a trop d'adhérents de la communauté, il faut des gens qui soient en dehors. On a contrôlé de manière à ne justement avoir tout le monde.
Une dernière question, deux questions.
À propos de la crise des élèves dans les écoles juives, est-ce qu'on peut être sûr que c'est vraiment par un attachement au judaïsme que les parents
ah voilà, oui, ça c'est une excellente. Oui, mais il y a plusieurs facteurs. Il y a plusieurs facteurs qui rentrent en ligne de compte, notamment la défaillance ou le problème de la carte scolaire, par exemple, pour éviter le lycée public. Du quartier dans lequel on est, qui n'est pas très bon, etc., on va aller inscrire les... Alors, il y a quelques enfants dans les établissements catholiques. Moi, je n'ai pas les chiffres là-dessus. Je ne sais même pas s'ils existent. Ils existent.
Les motivations sont si importantes. Mais ce ne sont pas les résultats qui sont plus importants.
Là, ce sont les résultats. Là, ce sont les résultats.
Dans les écoles juives, les résultats sont très bons.
Très bons.
C'est les deux meilleurs devant le collège et l'école.
Ça va peut-être pas durer.
Ça dépend des écoles juives.
Ça dépend.
Qu'on connaît tous. Hein.
Ça dépend.
Dans le 19e.
Le Venn et.
Oui.
Le
Venn, c'est les écoles traditionnelles de l'Alliance. Oui. C'est tout à fait comparable à une école publique. Mais je peux vous dire que dans les écoles maternelles, dans les écoles primaires juives, c'est une catastrophe. On est en train de fabriquer des sous-développés. Dans les écoles primaires, dans les écoles maternelles,
elles sont tenues souvent par des ultra-orthodoxes ou des Lubavitch. Hein,
et...
Comment ça, le...
Dieu est juif.
Ah.
Qu'est-ce qui existait dans ces pays d'Afrique? C'est ce genre d'enseignement qu'on leur donnait.
Alors,
pas les écoles de l'Alliance, pas les écoles de l'Alliance.
Mais c'est ça ce qu'ils essaient de
retenir. Ah oui, oui, c'est ce qu'ils entendent.
Moi, j'ai fait passer le bac dans une école juive, puisque maintenant, les écoles privées sous contrat d'association peuvent organiser les
examens.
J'ai fait passer le bac dans un établissement de très grand instant qui organisait le baccalauréat. Et donc, j'ai été frappée par deux choses. D'abord, ils avaient des élèves très sérieux, très encadrés, mais j'ai trouvé qu'ils étaient très peu imaginatifs. Des élèves qui étaient bridés, mais qui étaient charmants, attention, ils étaient charmants. Mais j'ai trouvé qu'ils étaient vraiment bridés, qu'ils étaient, mais pas d'élan. Il n'y avait pas de tunnelmousse de
l'élan.
Mais j'ai fait passer deux fois le bac généralisé. La deuxième chose, c'est que j'ai eu l'impression par la décoration de l'établissement qu'on y entretenait le dolorisme juif.
Ah, oui, ça.
Mémoire de la Shoah, d'identité, voilà. C'est, je dis tout de suite.
Là, je confirme tout à fait.
C'est une vue de l'extérieur. Donc, des élèves charmants, très encadrés, sérieux, mais sans dynamisme, qui ne se projettent pas dans les œuvres. Et par ailleurs, l'entretien par la décoration de l'école, du lycée, du dolorisme. C'est ce qui m'a frappé.
Oui, non, c'est tout à fait, enfin, l'aspect sur le dolorisme, je confirme, c'est ce qui est enseigné, c'est, je l'ai dit, je crois, rapidement, c'est la peur de l'autre, même, hein, la peur de l'autre, surtout ne pas entrer en contact avec les non-juifs, parce que de toute façon, ils sont hostiles a priori. Et vraiment cette idée qu'on est persécuté et en exil en France, c'est-à-dire que c'est une rupture du pacte républicain, hein, potentiellement.
Je suis obligé de clôturer une question, je regrette parce que nous avons l'obligation de restituer la salle à une certaine heure. Je remercie Chantal parce que vraiment ça a été une séance, je crois, qui nous a permis de faire le poids sur un certain nombre de choses, de remettre en question notre quotidien. Et c'est très important. Il faut vraiment que cette question d'identité, nous la traitions, et qu'elle soit également traitée en collaboration avec nos collègues du Maghreb, qui eux aussi se posent des questions sur l'identité juive. Et il y a des confusions qui sont quelquefois regrettables entre l'identité juive, l'identité israélienne, etc. Et il serait temps de nous y mettre. Merci.